Chers poditeurs, chères poditrices, bonsoir, c'est le débat d'octet. Et j'ai avec moi Angelus Yodasson, bonsoir Angelus.
Bonsoir.
Et j'ai un certain Pof, bonsoir Pof.
C'est moi, bonsoir.
Voilà. Aujourd'hui le sujet c'est Adopi, qui n'est pas l'ami des tout-petits, c'est la loi création et internet. Mais avant que l'on parte sur les pérégrinations d'Albanel à l'Assemblée Nationale, d'ailleurs ça me fait penser à Martine à la crèche et Tata à Albanel à l'Assemblée Nationale, nous allons déjà réagir un peu sur donc, ce qui a été dit dans le forum. Alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais de tête pour faire un résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Il y a Tiatias qui veut monter un réseau en utilisant le courant porteur. Donc sachant qu'il a une vieille Freebox qui a qu'un seul port Ethernet, voilà, donc il y a la réponse sur le forum. Il y a aussi des personnes qui se sont plaints du fait qu'il y avait trop de musique dans le débat d'octet. D'autres personnes aussi se sont plaints, peut-être même les mêmes, souvent, se sont plaints aussi du fait qu'il n'y avait pas de chapitre dans le débat d'octet et qu'on ait décidé d'utiliser un standard lisible partout qui s'appelle le MP3, qui malheureusement ne gère pas les chapitres. Ces deux types de personnes vont être contentées ce soir. Car au lieu des 8 musiques qu'il y avait avant, ce qui faisait 2 pauses d'un quart d'heure, il y a 2 musiques en tout et pour tout. Et j'introduis donc le retour des chapitres, enfin l'arrivée des chapitres, car ils n'ont jamais été là, l'arrivée des chapitres dans Pod Radio, avec ce débat d'octet chapitré. Normalement, la prochaine matinale pourrait ou pas être chapitrée selon les désirs d'Antoine. Messieurs, est-ce qu'il y avait d'autres réactions intéressantes que j'aurais pu laisser passer ?
Non, mais j'avais quelque chose à dire par rapport à la Freebox de notre ami Tiatias. Il me semble que si la Freebox est vieille de 6 mois et que c'est une ancienne version, Free l'échange gratuitement contre la nouvelle. Mais c'est peut-être pas 6 mois, c'est peut-être un an. Je me souviens plus exactement.
Dans ce cas-là, on se réengage à payer 90€ si on veut arrêter son abonnement. Enfin, tu sais que chez Free, si par exemple tu décides de résilier ta ligne le lendemain, tu payes 90€. Et ça baisse au fur et à mesure des mois, et je crois qu'il faut de 24 à 36 mois pour arriver à zéro.
Le lendemain, je dis non, monsieur, parce qu'on a un délai de rétractation de 15 jours, comme sur tous les trucs.
De 7 jours. 7 jours, le délai de rétractation.
De 7 jours. À chaque fois, je dis 15 jours, à chaque fois, on fait non, de 7 jours.
Enfin, bref. Bon, si vous le voulez bien, vu que je crois qu'on a à peu près fait le tour des réactions, avant toute chose, je vais quand même vous rappeler quand même de réagir justement sur le forum au débat de ce soir, aux questions de ce soir, qui seront donc détaillées dans le forum, et aussi vous rappeler qu'on a un répondeur, et que sur ce répondeur, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez aussi réagir, tout simplement, et l'avantage de ce répondeur, c'est qu'on récupère un petit fichier MP3, qui pourra donc, le cas échéant, être rediffusé à l'antenne. Donc si vous n'avez pas envie qu'on le rediffuse, il suffit de le dire à la fin, il n'y a pas de problème. Et si ça ne vous dérange pas, on pourra donc réagir comme ça de manière un peu plus interactive. Bon, donc avant de partir dans un débat enflammé, j'ai trouvé sur YouTube un petit documentaire en Creative Commons, un truc que Albanel ne doit pas connaître, et il se trouve que ça explique un peu la loi Adopi, comment elle est arrivée sur le marché. Non, c'est pas ça, c'est l'habitude de présenter des produits. Comment elle est arrivée donc sur la plateforme de débat international qui s'appelle Internet. Et donc je vais vous le diffuser tout de suite.
Afin de lutter contre le partage illégal de musique, le gouvernement avait fait voter en 2006 une loi extrêmement répressive contre les téléchargeurs. Vous avez oublié l'histoire ? rappelez-vous. Des députés de droite comme de gauche avaient voté pour une solution alternative, la licence globale. Celle-ci permettait la légalisation du partage de musique sur Internet en échange d'une rétribution forfaitaire qui aurait été redistribuée aux artistes proportionnellement au trafic que leurs œuvres auraient suscité. Cette solution a été votée et aurait dû se trouver dans le texte de loi. Mais suite à de fortes réactions des lobbies, le gouvernement a demandé une deuxième délibération au Parlement.
Nous n'avons plus de temps à perdre.
Le texte final fut, comme le souhaitaient les lobbies, un texte ultra répressif qui permettait de condamner n'importe quel téléchargeur à une amende de 300 000 euros et 3 ans de prison. Mais l'intention répressive de cette loi n'a pas été suivie par les tribunaux et ne s'est jamais traduite par d'importantes condamnations. Cette année, Nicolas Sarkozy tente de rendre applicable l'interdiction du téléchargement en mettant en place un système de répression massive sans passer par la justice. Son projet de loi, du nom de loi Création et Internet ou loi Hadopi, prévoit la coupure automatique de l'accès à Internet d'un abonné ayant été détecté en train de télécharger après 2 avertissements. Cette coupure pourra durer jusqu'à 1 an et sera commandée par une autorité administrative indépendante. Mais cette autorité ne sera qu'une sorte de guichet de dénonciation, car tout le travail de détection des téléchargeurs sera réalisé par l'industrie du divertissement qui aura alors le droit de surveiller l'activité du web. L'abonné dénoncé n'aura à aucun moment la possibilité de se défendre avant la coupure de sa ligne. Le but recherché par ce projet de loi peut sembler juste. En effet, le piratage est une atteinte aux droits d'auteur et devrait en principe être réprimé. Mais dans la méthode, cette loi pose de nombreux problèmes éthiques et est inacceptable.
Je crois que tout est mis en place avec une loi, dont je souhaite qu'elle soit votée très rapidement pour que toutes les libertés soient reconnues.
Selon la Constitution, l'autorité judiciaire est la seule à pouvoir instruire et juger en matière pénale, ce qui n'est en aucun cas du ressort d'une autorité administrative liée à des sociétés privées. En outre, le droit à la défense lors d'un jugement est également un droit fondamental qui ne sera pas respecté par la loi Hadopi. En effet, tout abonné dénoncé auprès de cette autorité administrative sera présupposé coupable et sanctionné. Cela s'oppose bien évidemment au principe de présomption d'innocence. De plus, la détection des téléchargeurs nécessite l'accès aux données de connexion de tous les abonnés. Celles-ci sont considérées comme des données personnelles, et seule l'autorité judiciaire peut demander l'accès à ces données. La loi Hadopi revient à concéder à des sociétés privées le droit de demander la communication de ces données personnelles et de les collecter à grande échelle, tout cela sans contrôle judiciaire. À l'heure actuelle, une telle concession n'a été accordée qu'à la police antiterroriste, et cela dans le but d'assurer la sécurité nationale. Ainsi, avec cette loi, des mesures d'exception à la protection des données personnelles, qui avaient été concédées pour la lutte antiterroriste, seront étendues à la lutte contre le partage illégal de musique. Un peu excessif, vous ne trouvez pas ? Mais peut-on toujours parler de mesures d'exception à la protection des données personnelles, lorsque ce système de surveillance s'attaque à des millions d'individus ? La disproportion d'un tel schéma aboutit à la banalisation de l'atteinte à ces droits fondamentaux et à leur disparition pure et simple. Ceci explique l'opposition de la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui a entre autres pour rôle de fournir au gouvernement des avis relatifs à la protection des données personnelles sur ces projets de loi. En effet, celle-ci conclut dans son avis à propos de la loi Hadopi que « le projet de loi ne comporte pas en l'état les garanties nécessaires pour assurer un juste équilibre entre le respect de la vie privée et le respect des droits d'auteur ». Pourtant, malgré toutes ces dispositions, les pirates pourront continuer à télécharger en utilisant des réseaux anonymes ou en se connectant au réseau Wi-Fi des environnements. Il est en effet possible de se connecter à des réseaux Wi-Fi protégés grâce à certains logiciels de hacking. Des voisins dont le réseau Wi-Fi aura été pénétré se retrouveront alors privés de leur connexion sans avoir jamais téléchargé. Il est également important de noter que ce projet de loi que le gouvernement cherche à imposer en urgence est déjà contraire à un amendement du Parlement européen qui stipule que la coupure d'une ligne Internet ne peut être imposée que par l'autorité judiciaire. Cet amendement, voté par 88% des eurodéputés, ne fait que rappeler les droits déjà existants en Europe et a été approuvé par la Commission européenne. Rappelons aussi que cette loi va à l'encontre des positions de l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms, l'AFA, l'Association des fournisseurs d'accès Internet français, et au rapport Attali. Pour finir, cette loi, s'inscrivant dans une logique de répression massive, coûtera plus de 30 millions d'euros par an aux contribuables. Il est temps d'adopter un système assurant la rémunération des artistes, pourtant si nécessaire à la création, tout en prenant en compte les réalités techniques et les libertés individuelles. Et dans de telles conditions, la solution qui s'impose est la licence globale.
Messieurs, j'espère que vous avez eu le temps d'ingurgiter tout ce lot, tout ce flot d'informations d'un coup. Pour les poditeurs qui n'ont pas eu l'occasion de tout ingurgiter d'un coup, vous pouvez revenir en arrière, retourner la cassette. Bref.
Retourner la cassette, rembobiner et appuyer sur play.
C'est ça. Quoique si tu rembobines et tu retournes la cassette, tu rembobines et t'appuies sur play, t'entends pas du tout la même chose, mais ça ce n'est pas la question. Déjà une première question. Donc c'est à la base la loi Adopi ou la loi création internet, c'est une loi qui est contre le peer-to-peer. Alors pourquoi tout le web se sent menacé? Il y a donc que des pirates d'après vous sur le net? Angelus.
Ben, c'est pas qu'il y a que des pirates, c'est qu'à la base c'est fait déjà pour empêcher le peer-to-peer. Et moi je dis lol déjà à la base, mais c'est qu'en plus ça va mettre en place des
non,
moyens
mais attends,
de.
Attends, Angelus, tu dis lol, mais il faut que tu développes. Pourquoi ça.
Mais parce que le peer-to-peer, enfin,
d'abord on dit pas lol, on dit ça
me
fait rire.
C'est un peu comme quand on dit le jeu vidéo c'est mal, tu veux, c'est un peu réduire tout un domaine à une exception, à savoir que le peer-to-peer à la base, on dit que c'est un peu facile de dire ça, mais ça reste très vrai, ce n'est pas que le piratage.
Oui,
c'est-à-dire. Voilà, et qu'en plus, bah justement, pour contrecarrer ça, je ne vais pas rentrer plus dans le débat, mais ça va mettre en place des moyens de piratage et de flicage dits plus ou moins légaux. On reviendra d'ailleurs sur la légalité de la chose, qui font que tu seras encore plus fliqué qu'en Chine.
Oui, parce que par exemple, ce que disait Andrew, c'est que c'est utilisé au départ le peer-to-peer, c'est un protocole d'échange de fichiers, et c'est pas utilisé que pour des fichiers piratés. Par exemple, il y a beaucoup de distributions Linux qui se téléchargent de cette manière, tout simplement parce que ça accélère grandement la vitesse de téléchargement. Et même sur le site jeuxvideo.com, je pense que c'est plus le cas, mais à une époque, on pouvait télécharger via des torrents les démos des jeux aussi. Ils le proposaient, ils créaient leurs torrents pour qu'on puisse les télécharger.
Et avec Adopi, si tu fais ça, tu as une chance sur deux de finir en prison.
Voilà, parce que
prison,
eux,
mais de
ils
voir
vont
ta
voir...
connexion coupée, parce que tant pis pour ta.
Voilà, eux, ils vont voir un nom, je sais pas, ils vont voir Halo 3 et ils vont faire ah Halo 3, ils ont piraté. Ils sont pas au courant vraiment de ce que tu télécharges, quoi.
Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne vont pas télécharger le contenu et ont vérifié l'authenticité?
Le nombre, monsieur. C'est mathématiquement impossible de vérifier tout ce que les gens téléchargent et en plus de le télécharger en plus eux-mêmes.
Mais dans ce cas-là, ça serait tellement simple de la contourner en changeant simplement le nom de fichier. C'est ça.
Bah, justement, c'est ça.
Je pense qu'ils vont être obligés de télécharger les données.
C'est quelque chose de trop difficile à mettre en place parce qu'on en revient au
problème de ce que disent aussi les détracteurs qui même si certains voient un bon côté à la chose, disent que de toute façon c'est inapplicable vu que c'est techniquement dépassé.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu les détracteurs, ils disent un petit peu, on dirait qu'ils disent, vous foutez des droits fondamentaux aux toilettes
vous mettez des droits fondamentaux dans les cabinets
et vous nettoyez grâce à la
grâce à la petite brosse prévue à cet effet.
De toute façon, allez-y, vous n'y arriverez pas. C'est ce qu'ils disent.
Voilà, non mais quelque part, dans ce cas-là, pourquoi ne pas les laisser foncer droit dans le mur? Tout seul comme des grands, je veux dire.
C'est le seul problème, c'est qu'entre temps, entre le moment où ils vont enfoncer dans le mur et le moment où, la loi sera votée, il y aura quand même des milliers de gens qui vont se faire couper leur connexion internet.
Oui, enfin des milliers, je pense pas.
Si
sont obligés de télécharger
tout
le contenu, ils vont s'en apercevoir dans les premières 24 heures que c'est pas possible.
Parce qu'en plus là où c'est très fort, c'est qu'ils sont pas censés arrêter. Enfin, ils sont censés arrêter les gens qui téléchargent illégalement. Seulement, ils sont pas censés. Ils partent pas du principe qu'il faut arrêter les gens qui téléchargent. C'est que par jour et par mois, tu dois arrêter tant de personnes. Après, tu t'en fous si éventuellement ils sont plus ou moins innocents. T'en fous, faut faire un chiffre.
Oui, non, mais des quotas comme ça, il y en a partout. Regardez, bon, c'est vrai que c'est pas forcément l'exemple le plus rassurant.
Mais enfin, disons que sur le principe, je préfère me prendre une amende à 15 euros ou à 75 euros que de me faire couper ma connexion internet pendant un an, quoi.
Sauf que tu sais qu'à l'heure actuelle, l'amende, elle n'est pas de 15 ou 75 euros. À l'heure actuelle,
je parle de 300 000 euros
et 2 ans d'emprisonnement.
Oui, donc, non, mais en ce moment, ils n'ont pas de quotas à respecter. Moi, je parlais plutôt sur les quotas qu'il y a sur les PV, les choses comme ça. Parce qu'à ce moment, sur le truc internet, t'as pas de quotas. Enfin, pas encore.
Alors oui, je tiens à préciser aux auditeurs que je suis là pour jouer l'avocat du diable, hein, que j'ai oublié de donner les rôles. Donc je vais me faire défenseur de la loi parce que j'ai trouvé personne d'autre. Principalement, Angelus est censé faire les remarques de la ménagère de moins de 50 ans, donc de base et pas trop technique, on va dire l'utilisateur lambda. Et POF est là pour faire le côté un peu geek et technique. Voilà. La répartition des rôles étant bien établie, maintenant j'aimerais bien continuer en disant que à l'heure actuelle, des quotas, tu en as aussi dans la police. Tu sais qu'il faut faire du chiffre, même s'il n'y a pas forcément de quota qui est donné au début. Mais à la fin, toujours est-il que s'il manque un peu de PV, t'en fais pas, que leur chef leur dira. Si on est dans le cas peut-être beaucoup moins rassurant de Brice Hortefeux qui annonçait combien d'immigrés clandestins ou d'immigrés tout court ils voulaient renvoyer dans leur pays soi-disant d'origine. On est dans le cas aussi où il y a des quotas à respecter. Le problème, c'est que si on ne donne pas de quotas aux gens, ils auront du mal à savoir combien de personnes il faut qu'ils emploient. Combien il faut les payer et surtout comment savoir qu'ils ont bien fait leur travail. Donc quelque part, cette question de quota, je pense qu'elle est plus d'un point de vue organisationnel. Tu comprends?
Oui, je comprends. Je laisse une marge au technicien pour qu'il réponde, mais
ouais. C'est par rapport au quota, c'est vrai que s'il n'y a pas de quota, en fait, c'est je sais pas trop quoi dire en fait sur.
Oui, c'est-à-dire que parce simplement que, en même temps, tu peux mettre pas un quota.
Mettre un quota, quelque part, c'est aussi une limite, mais c'est quelque chose à atteindre. Donc en fait, c'est un petit peu à double tranchant, je trouve.
Voilà. Sachant que contrairement au
parce qu'en général,
à Brice Hortefeux, il y a ce qui se fait plus ou moins dans la police, ça n'a jamais été avoué. C'est que c'est plus ou moins, je dirais, offert ou sous le manteau, tandis que là, c'est inscrit noir sur blanc sur la loi quand même.
Oui, mais
si tu cherches pas à comprendre, t'en chopes tant par jour.
Oui, non, mais quelque part, eux sont partis aussi du principe qu'ils sont comme des pêcheurs qui vont dans l'océan. Ils savent que de toute façon, il y a beaucoup plus de poissons que ce qu'ils arriveront à en pêcher. En gros, pour faire simple. En tout cas, en une journée. Après, on peut partir sur l'écologie, la pêche intensive, mais c'est pas le sujet. Donc, ils se disent, il y a 30% des Français qui admettent qu'ils sont en train de pirater. 30% des Français, en gros, ça fait 60 millions divisé par 3, disons. Ce qui fait donc un petit 20 millions de Français, quand même. Donc, du coup, ils se disent que bon, bah, même s'ils en chopent 10 000 par mois, avant qu'ils arrivent à 20 millions, il y en a pour un moment. Voilà. Donc du coup, c'est dans ce cas-là, c'est pas forcément complètement absurde. Après, c'est vrai que si on leur donne pas les moyens techniques d'arriver à mener à bien cette recherche, c'est vrai que là, dans ce cas-là, ils vont arrêter les connexions de n'importe qui. On est d'accord. Mais s'ils ont les moyens techniques derrière, ça peut tenir la route d'avoir un quota.
Oui, sachant que un des problèmes, enfin, je sors un peu de mon rôle de ménagère de moins de 50 ans.
Ouais,
mais disons
bon,
que je suis
une ménagère de moins de 50 ans,
qui est un peu geek sur les bords et avec un bouquin de droit sur le machin. C'est qu'à la base, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça sera une autorité indépendante et privée qui va gérer le truc, en fait, qui sera chargée d'arrêter les gens et de dire c'est lui qui a fauté et d'arrêter leur connexion. Seulement, le principe qui est le problème qu'il va y avoir, c'est que du coup, quand tu fais ça, tu délègues des pouvoirs de police et surtout des pouvoirs judiciaires à une instance privée. Et juste par rapport à la Constitution, c'est pas possible.
Et en plus, le fait de couper une connexion Internet, là, il y a une loi européenne qui interdit, qui dit qu'il n'y a qu'une autorité judiciaire qui peut le faire. Et
voilà. Déjà, le problème, c'est donner des pouvoirs judiciaires à une instance privée, ouais. Et c'est juste pas possible en droit français.
Donc, donner les pouvoirs judiciaires à cette instance n'est pas possible, et en plus le fait qu'elle soit pas judiciaire ensuite, donc en fait ça déroge de loi.
Oui, mais attendez, cette instance, c'est pas elle qui va couper les connexions normalement.
Oui, mais c'est elle qui en fait la demande, donc de toute façon.
C'est elle qui en fait la demande. Ensuite,
oui, mais c'est elle qui prend la décision de.
Non, c'est elle qui envoie son rapport Et ensuite, ça passe quand même normalement, d'après ce que j'ai compris, mais bon, Albanel, des fois disant une chose et son contraire, des fois même dans la même interview, quand elle dit pas une connerie. Le truc, c'est que elle disait qu'apparemment, il y avait quand même une autorité judiciaire qui allait prendre en charge ces rapports et couper la connexion. Sinon, le truc, c'est qu'on se retrouve encore dans une des nombreuses exceptions françaises vis-à-vis de l'Union européenne. Mais bon, là, on va pas. Déjà que ça coûte ça va coûter des millions ou voire peut-être 1 ou 2 milliards à mettre en place cette affaire d'Adopi. Ils vont pas en plus payer une amende tous les ans à la Commission européenne. À l'Union européenne, pardon.
Bah, ils vont être obligés sur certains points parce que ça le problème aussi c'est que ça c'est aussi contraire tout simplement à la présomption d'innocence parce que c'est ils détectent une activité sur ton réseau et ça y est t'es coupable. Et donc à la limite il y a la possibilité des spyware approuvés on va dire par l'autorité d'Adopi la haute autorité d'Adopi
tu sais que dans Adopi le H et le A c'est haute
je sais,
autorité
c'est haute
déjà,
autorité mais je me souviens plus déjà de ce que c'est la suite c'est pour ça que je dis ça et donc sauf si t'as ce truc là t'as pas moyen de prouver ton innocence et c'est déjà contraire au principe de la présomption d'innocence.
Attends, attention, il y a un autre moyen de prouver son innocence. Bon, on t'aura de toute façon coupé ta connexion internet avant, mais pour faire appel de la décision,
déjà c'est prévu contraire à la présomption d'innocence parce que tu as la sanction avant le procès et avant t'es coupable avant d'avoir quelques défenses que ce soit.
Ça, même si c'est loin d'être un détail,
C'est déjà le principe pour les radars. Hein.
Oui, aussi.
Ouais. Aussi, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai qu'Adopi, c'est un peu le radar de l'internet en fait.
Radar, disons que c'est.
Ouais, déjà que là, ça va choper plein de tracteurs, si tu veux, qui roulent à 90, quoi.
Comme les radars, quoi. Sauf que ça marque 320 sur le rapport du PV. Donc.
Voilà, mais, sauf qu'au lieu d'en avoir un tous les 6 mois, t'en auras 15 par jour, quoi.
Ouais. Ouais, mais 15 par jour, s'ils en chopent 10 000, c'est un pourcentage qu'ils vont juger comme acceptable. Ça va être dommage pour ces 15 par jour, mais c'est un faible pourcentage d'erreur. Hein. Non, mais c'est un faible pourcentage d'erreur, le cas échéant. C'est pas forcément...
Sachant que, si tu veux, enfin, je sais pas si tu veux qu'on passe tout de suite au côté désuet techniquement de la loi.
Non, mais on va en parler tout à l'heure.
D'accord, mais, parce qu'il y a quand même un moyen très simple de jamais se faire gauler sur ce truc.
Oui, mais justement, je voulais quand même expliquer un des autres moyens de justifier son honnêteté. Et de prouver son innocence alors que normalement l'autre est censé prouver qu'on est coupable mais bon ça c'est justement ce que disait Pof tout à l'heure c'est en fait d'envoyer son disque dur à la haute autorité de régulation de je sais pas trop quoi enfin Adopi quoi et donc qui scanne l'intégralité du disque dur et qui disent si oui ou non il y a eu du contenu piraté dessus.
Mais comment ils pourraient savoir?
Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus déjà, t'as plus ta connexion vu qu'ils l'ont coupé préventivement, c'est jamais. Hein. Et c'est qu'en plus, du coup, t'as même plus de PC vu qu'ils t'ont niqué ton disque dur que t'es obligé de l'envoyer là-bas.
Et comment ils peuvent savoir? Parce que je suis désolé, moi, imaginons, j'ai des CD audio que j'ai achetés, je les mets sur mon ordinateur, je lance une importation dans iTunes, je me retrouve avec des fichiers MP3 et pourtant ils sont légaux vu que j'ai acheté le CD.
Ouais, mais toi t'es louche, de toute façon t'as des MP3 sur ton truc, tu seras forcément.
Ouais, mais
en plus,
tu sais,
tu sais
que normalement, le truc c'est qu'il y a des protections contre la copie sur les CD et qu'il est interdit par la loi de les contourner. Donc tu es déjà dans l'illégalité
car tu
as
pouvoir le faire.
Je suis dans l'égalité parce que iTunes contourne les trucs sans que je le sache.
Non, mais sachant que la même, enfin c'est pas la même haute autorité, mais le même état qui te met en place la haute autorité te fait quand même payer pour que tu puisses copier les CD sur ton disque dur, ça s'appelle la taxe contre la copie privée. Sauf que quand tu le fais, ils te mettent en tol.
C'est la taxe pour la copie privée, hein. Elle est pas contre, voilà. Elle est pour. Mais,
oui,
sachant
elle est pour.
Que la
sauf
copie
que,
privée,
alors,
encore
sauf
une
que
fois,
quand
je
tu
rappelle.
Fais, ils te font ah, vous avez copié un CD, menottes
c'est
prison.
Ça. Sauf que il n'y a pas eu de loi pour la copie privée, c'est une tolérance. Donc déjà, elle a.
Ouais, mais il y a quand même une loi qui te fait payer.
Oui, non, mais.
Il y a une tolérance et une loi qui te fait payer.
Mais j'aurais bien aimé, par exemple, que vous parliez de ce que ça va affecter sur le. L'impact que ça va avoir sur le web en général. Parce que.
L'impact que ça va sur le web, c'est que déjà, ça déborde dessus. Dans le sens où, en plus, ils vont te restreindre, en amis chinois, bonjour, hein, l'accès à certains sites, par exemple. Quand tu vas sur des connexions Wi-Fi, des hotspots, dans la série ton McDonald's, ton hôtel qui va bien, c'est que tu auras maintenant des listes blanches de sites sur lesquels tu auras le droit d'aller.
Et cette liste blanche,
donc en fait, c'est pas de la censure, mais tu auras juste des sites avalisés par le gouvernement. Quelque part, moi, ça fait peur. Amis des années 40, hein, Maréchal, nous voilà.
Ouais, ou simplement 1984 de George Orwell, hein, tout simplement.
Ouais, bah, c'est un peu
ouais,
ça.
Sauf que 84, ça reste de la science-fiction, Adopi et machin, un peu moins, quoi.
Eh oui, mais bon. Enfin bref, qui aurait cru qu'un jour 1984 will be like 1984?
Pour revenir là-dessus, justement, et c'est où il y a une émission qui en parlait, c'est que. Enfin, on sait pas comment on suppute peut-être, et on est peut-être un peu mauvaise langue, hein. Mais c'est que qui vont se dire que 90% de leur fameux spyware, enfin pas spyware, mais mouchard officiel, ça va être sur PC. Et la grande question, c'est est-ce que c'est bip, parce qu'on est quand même dans le débat d'octet, hein, soit gardons un certain niveau, est-ce qu'ils vont l'avoir prévu sur Mac?
Bah écoute, pour répondre à la
question, parce que c'est pas sûr que les gars qui sont sur Mac et sur Linux, ils disent bah si vous n'avez pas de trucs compatibles.
Ben justement, pour montrer le niveau, je vous demanderai donc de ne pas faire de commentaires après et aussi de faire silence car l'extrait est malheureusement à un son très faible et je ne suis pas arrivé à le remonter. Si vous voulez prendre peur sur le niveau de connaissances technologiques de notre chère ministresse de la culture, ouais, ou la ministre, peu importe.
Ministre.
Parce qu'elle, c'est pas un ministre, c'est une grosse tresse.
je vous conseille d'écouter ce petit extrait qui évidemment est sorti de son contexte, mais le contexte vous le retrouverez de vous-même.
Sur les logiciels, sur l'affaire des logiciels libres, évidemment les logiciels libres, quand on achète évidemment des logiciels, par exemple le pack Microsoft, ça c'est pas des logiciels libres, Word, Excel, PowerPoint, il y a évidemment des pare-feux, je viens de le dire, il y a des logiciels de sécurisation. Mais sur les logiciels libres, vous pouvez également avoir des pare-feux, qui d'ailleurs, mais évidemment, par exemple, nous, au ministère, nous avons un logiciel libre qui s'appelle OpenOffice, et il y a effectivement un logiciel de sécurisation qui empêche, en effet, le ministère de la Culture d'avoir accès, bien sûr. Et les éditeurs logiciels libres fournissent des pare-feux, ils fournissent même des pare-feux gratuits. Donc cet argument est sans fondement, voilà ce que je voulais dire.
Alors, chers auditeurs, si vous êtes, on va dire, néophytes dans la technologie, je vous prie de prendre garde. En effet, ce que vous venez d'entendre est une grossière ânerie. Car, et c'est justement Pof qui va l'expliquer tant qu'à faire, quelles sont les âneries qui ont été dites rapidement, parce qu'après il va falloir qu'on transitionne.
Alors, d'abord, la suite Microsoft et OpenOffice sont des logiciels de traitement de texte, donc ils n'ont pas de pare-feu, vu qu'un pare-feu, en fait, c'est plus un autre programme complètement séparé, donc un pare-feu tiendrait plus...
Il peut être intégré au système d'exploitation, quand même.
Voilà, c'est dans le système d'exploitation qui serait, et en plus, je pense que le pare-feu n'est pas vraiment... en cause dans cette histoire, parce que j'imagine qu'elle était, parce que j'ai pas le contexte, mais j'imagine qu'elle était en train de parler du fait qu'on pouvait se faire pirater sa connexion et que des personnes pouvaient l'utiliser à notre place. Sauf que le pare-feu n'y fait rien si la personne réussit à récupérer la clé web, ce qui est très facile et qui se fait maintenant en 10 minutes.
Être un geek quand même, je précise.
Oui, donc faut le savoir, mais il y a des tonnes de sites internet qui l'expliquent. C'est devenu.
J'ai voulu faire le test moi-même.
Sans ça, te faire pirater ton adresse IP.
Oui,
quoi.
C'est vrai qu'il faut quand même être geek parce qu'il faut avoir le matériel qu'il faut, etc. Parce que ça marche pas avec tous les ordinateurs, mais disons que le pare-feu ne sert à rien, parce que à partir du moment où il se connecte à votre connexion internet, à votre Freebox, à votre Livebox, etc., votre pare-feu sur votre ordinateur, il va rien empêcher qu'il se passe sur votre connexion internet. Il va juste protéger votre ordinateur.
Qu'on vienne gratter dans ton PC, mais ça n'a rien,
rien à voir avec la connexion.
Et en parlant de protection, donc tu conseilles quoi ? Rapidement au niveau de la box, quel type de clé il faut choisir, parce que moi je sais pas, entre WPA ou S.
En ce moment, ce qui est le plus conseillé, c'est de mettre du WPA, le dernier WPA qu'ils ont fait, parce que c'est ce qui est plus sécurisé, qui est le moins piratable, mais c'est qu'une question de temps, parce que de toute façon, ils arrivent toujours à les pirater, ils l'ont déjà à moitié fait pour le WPA. Mais la question c'est comment protéger réellement le réseau d'une intrusion, oui, ce serait de mettre une clé WPA.
Et sinon,
parce
qu'une
clé web,
parlé
en fait,
aussi...
c'est très facile à trouver.
On va parler aussi d'association avec les adresses MAC. Je fais comment si j'ai un PC ?
En fait, ça vient pas
ça
vraiment.
Ça n'a rien à voir, monsieur.
Ça n'a rien à voir.
Non, mais je pose les questions de l'idiot du village, hein, donc c'est un peu mon rôle.
Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué de trouver une adresse MAC sur l'adresse MAC de la carte réseau sur l'ordinateur de type PC, parce que c'est rangé un peu, c'est un peu caché comme information. Mais
l'adresse MAC, c'est quoi ?
C'est l'identifiant unique qu'il y a sur toutes les cartes réseau, qu'elles soient Wi-Fi ou que ce soit des cartes filaires Ethernet.
Voilà, c'est un peu l'ADN de ta carte réseau.
Voilà, donc, d'accord, et en fait, le principe de protéger par les adresses MAC, c'est qu'on donne à la box, aux box qui font routeur, etc., on leur donne une liste d'adresses MAC autorisées et donc le routeur n'accepte les connexions que de ces personnes-là qui ont cette adresse MAC-là. Après, l'inconvénient, ça peut être que si vous avez des invités qui viennent à la maison, il faut s'embêter à mettre les adresses MAC, etc., dans le routeur pour que les gens puissent se connecter à Internet.
Si on met l'adresse MAC, on est tranquille.
Je pense qu'on est bien sécurisé, c'est surtout l'adresse MAC qui te sécurise plus que le WPA
en fait.
Oui, voilà, le WPA, c'est pas à la limite, s'il y a un filtrage d'adresse MAC, on pourrait même mettre un réseau ouvert parce qu'il n'y a pas grand chose à faire contre un filtrage d'adresse MAC.
D'accord. Eh bien, messieurs, sur ces explications qui seront sûrement très utiles, nous allons marquer une petite pause musicale.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Thank you.
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre dans ce débat d'octet spécial Adopi. J'ai avec moi Angelus et Pof. Tiens, Pof, au hasard, tiens. D'après vous,
oui.
D'après, je te vous vois maintenant, c'est nouveau. Donc, d'après toi, est-ce que cette loi va être rentable ? Ça se voit pas du tout que j'ai des notes, hein, rassure-moi.
Donc, est-ce rentable, qu'elle va être rentable, cette loi ? Disons que pour l'État, elle va pas vraiment être rentable parce que c'est beaucoup de sous. Je parle en matière financière, ça va être beaucoup de sous dépensés pour ce projet. Et après, rentable au niveau de est-ce qu'il va y avoir moins de piratage, je pense pas vraiment parce que la loi a un cran de retard parce que elle contrôle le peer-to-peer et le peer-to-peer est de moins en moins répandu et on utilise beaucoup d'autres techniques en ce moment.
Mais dis-moi, justement, vu que tu abordes le peer-to-peer, qu'est-ce que c'est le peer-to-peer ? Est-ce que c'est le torrent, c'est du peer-to-peer ? Emule, je me doute que ça doit être du peer-to-peer. RapidShare, Views,
RapidShare, non, par exemple.
Qu'est-ce qui est du torrent ? Parce que ça serait peut-être pas mal.
Alors, en fait.
Donne des noms de logiciels, plus différence, expliquer la technique, mais bon, vas-y.
Oui, mais j'explique quand même. La différence, c'est que, principalement, c'est que quand vous visitez un site internet, vous avez un ordinateur qu'on appelle le client et le site internet c'est le serveur, donc en fait vous lui demandez quelque chose, vous lui demandez une page internet par exemple et le serveur vous donne la page internet. Alors ce qui se passe avec les réseaux peer-to-peer, c'est qu'en fait vous demandez un fichier, une page, parce que ça existe aussi pour plein d'autres systèmes, pas que des échanges de fichiers, et on demande, donc on fait une requête à un ordinateur et cet ordinateur, s'il n'a pas la chose qu'on lui demande, il demande à un autre ordinateur qui est proche de lui, etc. Et donc en fait ils se passent tous le mot et il n'y a pas deux serveurs de serveurs qui centralisent toutes les requêtes. En fait c'est un réseau complètement c'est une communauté d'ordinateurs en fait.
D'accord.
Donc c'est en fait il faut que quelqu'un ait le, voilà, c'est internet sur internet.
D'accord.
Et donc par exemple les sites internet, donc comme tu citais RapidShare, Mega Upload, etc., qui sont eux aussi beaucoup utilisés dans le piratage, ne sont pas du peer-to-peer, donc eux ils ne seront pas du tout surveillés, sauf peut-être sur les hotspots Wi-Fi, etc., qu'on peut trouver, peut-être qu'ils ne feront pas partie de la liste blanche s'il y a effectivement des listes blanches. Ce qui serait gênant pour certaines personnes parce que c'est aussi un système d'échange de fichiers normal.
Oui, parce
donc
que par exemple, je pense à dl.free.fr par exemple, qui permet, voilà, donc d'envoyer des pièces, enfin ce qu'on n'arrive pas à envoyer comme pièces jointes,
et
parce que
fichiers,
ça fait plus,
voilà,
de DMO, et que par exemple ça nous a bien servi pour s'envoyer des packs de jingle par exemple, pour travailler, quoi, sans compter que quand on travaillait chez Pumcast on avait un gros magazine et que ça pouvait servir aussi.
Voilà, donc étant donné que ça n'est pas surveillé par Adopi, sur les hotspots Wi-Fi, il y a de grandes chances qu'ils bloquent ce genre de site pour éviter le problème quand même, parce que bizarrement ils le bloqueraient, sauf que c'est pas surveillé, donc en fait ils auraient aucun risque, mais ils le bloqueraient quand même par conscience
professionnelle,
conscience anti-piratesque. Je sais pas vraiment si c'est professionnel, mais et donc en fait la loi, je sais pas vraiment si elle serait rentable, parce que ce qui est de plus en plus utilisé justement c'est ces plateformes de téléchargement sur internet, déjà parce que le peer-to-peer, vu qu'il est moins utilisé, les transferts sont beaucoup plus lents et quelque part il est moins utilisé, donc les ordinateurs donc sont moins présents, donc il y a moins de relais, etc., donc du coup c'est moins rapide. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens préfèrent les télécharger directement sur des plateformes comme ça, parce que comme le téléchargement est direct, c'est-à-dire que vous avez juste un serveur devant vous, le téléchargement va plus vite parce que vous êtes sûr d'avoir le fichier en entier et qu'il arrive tout de suite. Alors que pour le peer-to-peer, en fait, il va chercher des morceaux de fichiers chez chaque personne.
D'accord.
Donc ça peut être plus long le temps de trouver les morceaux de fichiers.
Ok. Merci de ces éclaircissements.
Bah, j'espère que j'ai bien expliqué.
Je me tourne vers l'autre côté de la table virtuelle pour demander à mon cher, ouais, Angelus, si lui, il pense que cette loi va être rentable. Et je vais peut-être préciser rentable ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas rentable au sens financier, mais rentable au sens de est-ce que ça va servir à quelqu'un, est-ce que ça vaut l'embêtement, entre guillemets, est-ce que ça va suffisamment servir à des personnes qui, elles aussi, entre guillemets, valent le coup, c'est-à-dire si ça n'enrichit qu'une personne sur le dos de 60 millions de Français, c'est pas forcément intéressant, mais si ça sert à faire vivre toute une communauté qui se faisait léser par les pirates jusqu'à présent, ça, d'un seul coup, ça c'est rentable. Donc, fort de ces éclaircissements, Angelus ?
Bah alors non. Sinon j'aurais dit oui, mais sous cet angle-là, je dis non. Pour la simple et bonne raison que, comme le dit POF, c'est que ça va peut-être arrêter, enfin ça POF l'a pas dit, mais je le rejoindrai après, c'est que ça va peut-être arrêter les 1% qui téléchargeaient, mais genre les, comme on voit déjà les grands-mères, les enfants de 6 ans qui téléchargent comme ça, mais qui n'ont aucune connaissance. Par contre, dès que tu as un minimum de connaissances en informatique, et je dis vraiment un minimum.
Ouais, mais je tiens à t'arrêter, attends, parce que la grand-mère n'a pas de connaissances en informatique, mais le gamin de 6 ans, t'as déjà vu un gamin de 6 ans récemment, là? Parce que moi, tu sais qu'il y en a, ils atteignent facilement mon niveau. Bon, c'est pas très dur, j'avoue, mais voilà quoi, donc quelque
mais
part.
Mais enfin, tout ça pour dire que si tu as un minimum, tu peux très facilement outrepasser la loi par divers moyens que on évoquera peut-être après, ou enfin, même sans donner les clés pour comment faire pour pirater. Pour ne serait-ce qu'évoquer les failles techniques, je dirais, de la loi. Et donc en plus, voilà, ça, c'est la grande majorité des gens qui téléchargent, ça ne les arrêtera pas. Et en plus, pour revenir sur ton fait de, est-ce que ça va permettre, par exemple, à l'industrie du disque ou autre ou de la vidéo de ne pas couler? Pour la vidéo, peut-être un peu plus, parce que vu la place que prend un film, surtout maintenant avec la haute définition. Le support physique, encore, je pense, de ce côté-là, de beaux jours devant lui.
Par contre, pour la musique,
je tiens à préciser une
chose, pour les films,
c'est un peu inéluctable.
Pour les films, il faut savoir que les entrées en salle n'ont jamais été aussi nombreuses que ces temps-ci. En même temps, je le comprends.
Oui, parce que de toute façon, voir un film, c'est très dur en fait de trouver un film de bonne qualité quand il vient juste de sortir en salle, de le trouver de bonne qualité sur internet. C'est pas aussi dur qu'on pourrait le penser, c'est-à-dire que ça se trouve, mais les gens préfèrent plus aller au cinéma, aller voir avec le vrai son, le grand écran, etc., plutôt que de s'embêter à le chercher sur internet et à passer des heures
et à attendre 15 jours qu'il arrive.
À attendre.
Surtout que maintenant qu'il y a la HD, déjà qu'avant c'était long, maintenant tes fichiers font 4 fois le poids de ce qu'ils faisaient avant, quoi.
Ouais, parce que non, les gens font haute définition et tout, et puis en fait tu te retrouves à télécharger pendant 2 semaines.
Avant tu mettais 3 jours, maintenant tu mets 2 semaines, quoi.
Tu télécharges pendant 2 semaines un truc et t'as souvent des chances de tomber sur un film pornographique au lieu de tomber sur le film que t'as voulu.
C'est pas inintéressant pour ça, mais. Le truc quand même que je tiens à préciser, c'est aussi que ce qui a beaucoup changé. Ces temps-ci, c'est aussi les multiplex. Et certes, le prix des places a augmenté, mais la taille des écrans aussi, la qualité de l'image et du son, c'est beaucoup amélioré. Je vois par exemple sur les 10 dernières années, le nombre de multiplex qui ont poussé tout autour de mon environnement personnel, donc c'est-à-dire les villes de Nîmes et Montpellier, si vous voulez tout savoir. Et quand on voit donc la taille absolument impressionnante des écrans des grandes salles des multiplex comme le Gaumont à Montpellier par exemple, ça n'a pas grand chose à envier aux écrans qu'on présentait comme gigantesques au Futuroscope il y a justement 10-15 ans, quoi. Donc il y a l'expérience cinématographique qui a pas mal changé. Avant c'était des petites salles et des écrans qui font
pour enchaîner sur ce que je voulais dire. C'est justement ce que n'a pas compris l'industrie de la musique, parce que c'est quand même elle qui pousse à fond derrière la loi d'Opier. Plus je pense que l'industrie du cinéma
elle est aussi, rassure-toi, elle est
il y avait une étude présente qui disait que en fait c'était beaucoup plus les films qui subissaient le piratage que la musique. Et j'ai plus les références de cette étude, mais il disait que c'était les films qui étaient le plus piratés, et que pourtant c'était l'industrie du disque qui se plaignait le plus. Les jeux vidéo aussi sont extrêmement piratés, surtout sur DS, parce que c'est très facile, c'est devenu un piratage de masse, et pourtant eux ne se plaignent pas. Enfin, les développeurs indépendants.
Pour le jeu vidéo, c'est différent, parce que autant le lobby de la musique est important, autant le lobby de la vidéo aussi, autant le lobby des jeux vidéo est quasiment inexistant, quoi.
Mais il n'y a que les développeurs indépendants qui se plaignent du piratage, tout simplement parce qu'ils sont indépendants et qu'ils ont besoin d'argent. Mais les grandes sociétés qui font du jeu vidéo ou des films, etc., ne se plaignent pas, elles, parce que tout simplement, après, ça rapporte en produits dérivés, ça rapporte en pour les jeux vidéo en extension, en jeux à côté. Enfin, quelque part, il y a du piratage, mais ça rapporte toujours à côté. Par exemple, la plupart des gens, ils écoutent des musiques et ils regardent des bandes-annonces sur YouTube avant d'acheter les produits. Et c'est, les gens ne piratent plus. En fait, maintenant, ils vont sur YouTube, ils vont sur Deezer. Quelque part, cette loi, elle arrive avec 5 ans de retard.
Oui, non, mais pour en revenir,
autant sur les techniques que sur les habitudes des gens.
Je vais essayer de finir ce que je disais au niveau de la musique. C'est-à-dire que, bah, contrairement à ce qu'on a dit par rapport au cinéma, déjà, l'expérience de la musique n'a pas changé depuis, allez, on va dire 15-20 ans. C'est-à-dire que tu as toujours le CD avec la même qualité de son et les mêmes CD. Et c'est qu'en plus, contrairement en parallèle de ça, ils essayent, alors qu'on te pousse à acheter, par exemple, pour ne pas citer de marque, mais des iPods, des Arcos ou autre truc, donc qui dématérialisent la musique, ils continuent à se battre fer et ongles pour le support physique, donc pour du CD, alors que la tendance, et c'est inéluctable, va sur la dématérialisation. Tu fais un malheur au Scrabble, ce mot-là.
Justement, pour rebondir sur ta dématérialisation, le problème, c'est que le consommateur, maintenant, j'ai envie de dire, c'est trop tard. Il s'est un peu habitué à avoir du gratuit. Est-ce que finalement, faudrait pas plutôt se lancer sur un modèle économique où ça serait sur des ventes annexes qu'on récupérerait de l'argent? Je pense par exemple dans le monde de la musique. Et principalement pour le monde de la musique, où ça pourrait être donc justement les concerts, où ça pourrait être des packs collector qui souvent se vendent mieux que l'album habituel en plastoc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire des ventes qui sont
accompagnées par des produits dérivés. Il y a d'ailleurs des artistes je sais plus quel nom qui faisait ça, c'est-à-dire que t'achetais ta place de concert,
je crois.
De quoi?
Je crois que c'est N.I.N.
De
Nine Inch Nail. Je crois qu'il avait fait ça justement, qu'il avait mis son album en
de quoi, que t'as acheté ta place de concert et que t'avais non c'était comment ah je retrouve plus le nom, c'est
ça te reviendra.
Enfin, toujours est-il que pour les gens qui n'ont pas suivi la news, c'est qu'à la fin du concert, ils te filaient une clé USB avec l'enregistrement du concert que tu venais de suivre.
Ça c'est pas mal franchement. Ça c'est le genre oui, de ça c'est le genre
c'est
de chose
par logique
ça...
parce que tu assistes au concert, donc t'as le droit d'avoir l'enregistrement.
Voilà, ouais, et tu as ta musique dématérialisée. Voilà,
j'ai retrouvé le nom. Non, normalement, non, mais quelque part, voilà, c'est, tu l'as dans tes souvenirs, donc autant l'avoir gratuitement dans une clé USB.
Parce
ou
que c'est de toute façon clair que même dans l'industrie du disque actuel, même si encore une fois ils se battent bec et ongles pour le disque, un artiste et une maison de disque, sa thune, elle le fait plus sur les tournées et les concerts que sur les ventes de disques.
Ah, et c'était justement Radiohead, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est Radiohead qui mettait en vente leur album sur leur site internet, et en fait ils le mettaient en vente au prix minimum de 0€, c'est-à-dire qu'en fait tu mettais toi-même le prix que tu voulais payer, et ça a plutôt bien marché, parce qu'on aurait pu penser que vu que tout le monde veut du gratuit, tout le monde aurait payé 0€, et finalement il y en a qui ont donné des sommes d'argent, en fait ils ont eu des dons quoi, en fait, quelque part.
Après, la différence, c'est qu'ils ont quand même récolté, je dirais, la moitié ou le quart de l'argent de ce qu'ils auraient fait en vendant leur CD au prix normal.
Oui, mais quelque part.
Ça a marché, mais pas si bien que ça, quoi.
Oui, mais c'est pour montrer qu'il n'y a pas besoin de, non plus de vendre le disque, parce que le disque, tu peux. Le disque, tu n'as pas vraiment beaucoup de profit, t'as plus de profit sur les produits dérivés, voilà. Sur les concerts, etc.
Mais voilà, le problème de l'industrie du disque actuel, c'est que c'est pas qu'on dit qu'il faut les pirater ou autre chose, c'est qu'ils s'accrochent bec et ongle à un format justement qui est dépassé, et qu'ils n'ont pas pris assez le tournant du numérique et de la dématérialisation, et que du coup, eh ben, ils s'accrochent à un ancien modèle. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir des sous et investir tout ce qui, déjà tout l'argent que ça doit leur coûter en lobbying et autre chose sur la loi Adopi, l'investir sur une dématérialisation concrète et des plateformes et un système économique viable, je pense que déjà, ils redoraient d'une part leur blason au niveau du public et des internautes, et aussi leur blason par rapport à leurs banquiers, quoi.
Mais ils ont essayé quand même. Parce qu'ils vendaient des clés USB et des lecteurs MP3 avec déjà des albums dedans.
Oui, mais le problème, c'est qu'ils font
ça
pour un album.
Il y a toujours de la matérialisation vu que tu vends le
CD. Oui, non, mais je veux dire, même à la rigueur, t'es content, tu récupères une clé USB. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils te vendent ça, ils te font ça, ils te font, ouais, on a fait un proto, on est trop au truc de la mode, on a fait un proto avec un artiste. Et du coup, acheter quand même le CD et puis acheter le CD des autres. Le problème, c'est qu'il faut y a un jour où il faudrait qu'ils disent, on fait ça pour tous les artistes et point barre, quoi.
Oui, mais attention quand même, et là, justement, vu qu'on a beaucoup parlé de l'industrie musicale, on va dévier sur celle des films. Le problème, justement, aussi de se maintenir toujours à un niveau élevé de connexion avec les nouvelles technologies, c'est que le consommateur peut aussi au final s'y perdre, en avoir marre et être lassé. ça fait à peu près trois fois la même chose, de devoir changer son matériel et pire, devoir racheter les films qu'il a déjà. Prenons l'exemple à partir de la VHS. On va pas partir à partir du Super 8 parce que sinon ça va être un peu long, puis j'ai pas connu surtout. Alors. Le truc c'est que j'avais pas mal de films, prenons Fantasia par exemple. C'est pas mal comme film, c'est un Walt Disney en plus, à faire plaisir à Steve Jobs.
Ouais, j'avais la cassette.
Voilà, moi aussi j'avais la cassette de Fantasia. Et puis est arrivé le DVD. Et là ils m'ont dit, hey, regarde, tu vas voir, ça va être une super qualité de son, une superbe qualité d'image. Bon, effectivement, c'était pas trop mauvais au niveau de l'image. Le son était magnifique en revanche, super bien remasterisé.
Attends, je suis sûr qu'ils ont sorti le Blu-ray.
Ils sont sortis le Blu-ray. Et justement, et là où le bas blesse, c'est qu'ils ont sorti le Blu-ray et que je m'en tamponne. Parce qu'ils ont beau avoir sorti le Blu-ray, moi personnellement, j'ai pas envie de racheter une troisième fois ce Fantasia, quoi.
Donc, non, parce que tu l'as déjà vu de toute
façon. Oui, mais là justement.
Non, mais même si je l'ai déjà vu, même un film. Non, mais même une œuvre qui pour moi est culte et que j'adore au plus haut point, c'est pas. Je suis pas prêt à racheter de nouveau. Oui.
Non, mais c'est clair, mais là justement où t'apportes un peu de l'eau à mon moulin, même si tu le veux pas, c'est que qu'est-ce qui te bloque et qu'est-ce qui t'embête à chaque fois, c'est le changement de support physique. Parce qu'il y a, par exemple, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, t'aurais passé ton truc en, on va dire, en MW ou MP4 ou en je sais pas, tu l'aurais eu ton film pendant 10 ans et t'aurais pas eu à changer de support.
Oui, mais
qu'est-ce qui t'oblige à changer ou à racheter à chaque fois pour te mettre au goût du jour? C'est le changement de format.
Oui, mais et là où je vais arriver à mettre ton argument en échec, c'est que, oui, on joue aux échecs dans le débat d'octet, je mets mon cavalier en F2 et je te dis que le problème se pose de toute façon, même qu'il y ait de la matérialisation ou de la dématérialisation du support. Tout simplement parce que prenons un exemple qui s'est passé sur l'iTunes Store. Avant, les vidéos étaient fournies en 320 par je sais pas trop combien. Enfin bref, un format relativement petit. Et du jour au lendemain, ils se sont dit, tiens, on va passer en 640 par 480. D'accord ? Maintenant, ils passent à la HD. D'accord ? Un jour, on aura la super méga HD, le truc qu'il faudra avoir des murs complets, mais le concept reste le même. Si tu veux avoir la nouvelle version, enfin la meilleure qualité, tu repayes. Donc que ça soit sur du téléchargement légal ou que ça soit quand tu achètes à Carrefour, à Auchan, à Super U, ce que tu veux, c'est le même problème de toujours faire repayer les mêmes œuvres.
Bah, le problème c'est que en fait et là c'est plus spécifique à iTunes, mais il me semble que c'est pas vraiment le cas, parce que pour les applications qui vendent sur l'iPhone et sur l'iPod Touch, une fois que tu les as achetées, donc du coup tu peux les revoir tout le temps, elles sont liées.
Ouais, mais ça c'est sur les applications.
Si tu la supprimes, tu peux la réacheter entre guillemets, mais vu que tu l'as déjà payé, tu la repayes pas deux fois.
Et
Ils devraient généraliser sur les musiques et les films, parce que tu t'en fiches de l'acheter deux fois. Surtout que maintenant ils ont supprimé les DRM, donc de toute façon tu vas pas l'acheter deux fois, imaginons pour deux ordinateurs différents
chose. Même ton argument ne n'apporte pas vraiment de l'eau au moulin d'Angelus, vu que de toute façon pour les MP3, enfin pour passer du format avec DRM au format sans DRM, on est de toute façon obligé de payer encore. Donc quelque part de forcer le consommateur à mettre la main au portefeuille, peut-être que il décide d'aller mettre la main sur la souris et d'aller sur des sites pas forcément recommandables.
Oui, mais l'avantage que ça a, pour encore défendre ma thèse, c'est que même si tu as acheté par exemple ton premier truc en 240 par 320, et même si entre temps tu changes trois fois de PC, tu pourras toujours lire ton format. Si t'as acheté ton caméscope parce que la mode était au machin, et ben tu peux plus voir tes films.
Mais je peux toujours lire mes VHS, monsieur, j'ai gardé mon vieux magnétoscope.
Oui, parce que t'as gardé ton vieux magnétoscope.
Par contre, si tu as ton truc encore pas dématérialisé,
tu peux changer 15 fois de PC.
Ah oui, non, mais attends, avant qu'on perde les supports optiques,
t'as pas de problème de rétrocompatibilité.
Bah oui, mais là, maintenant, avec les DVD, j'en ai plus. Hein. On est toujours sur des galettes optiques.
Mais... Oui, sauf que le jour où tu passeras par exemple au Blu-ray ou
Apple
autre
TV,
truc.
qui a pas de lecteur.
Voilà, et ben tu essaieras de faire manger une VHS à ton Apple TV. Tandis que par exemple,
ouais, sachant que la VHS fait le double de la taille, quoi.
Voilà, mais sachez, mais ton format qui sera dématérialisé, mais même si c'est du WMA ou du MP4 et qui, même s'il est en 150 par 150, et ben tu pourras toujours le lire. Et ça fait 10 ans que tu te le traîneras.
Ouais.
Ouais, mais en fait là c'est quelque chose d'utopique ce que je vais dire, mais on devrait avoir quelque chose comme quand t'achètes une œuvre, on te donne, je sais pas, un numéro de série unique. Et ou alors je sais pas, un quelque chose qui te donne un identifiant.
Tu cherches pas
unique
un terme
qui te
du style
de...
une licence?
Oui, une licence. Voilà, on te voilà. donne une licence qui te permet de télécharger cette œuvre dans tous les formats que tu veux et à vie. Parce que quelque part, tu l'achètes, tu vas pas l'acheter dans plusieurs formats, tu vas pas l'acheter dans le format cassette, dans le format DVD, dans le format Blu-ray, ensuite tu l'achètes sur ton ordinateur parce que tu veux le voir sur ton ordinateur. Et quelque part, c'est aussi une perte de temps parce que t'achètes un CD, ensuite tu le mets dans ton ordinateur pour l'écouter aussi sur ton ordinateur. Pareil avec un DVD, tu dois t'embêter à l'encoder pour par exemple regarder sur ta VSP, ton iPhone, peu importe, ton iPod. Et quelque part, ce serait quelque chose de beaucoup plus simple. Mais ça, c'est complètement utopique parce que ça, c'est complètement pas rentable.
Bah ça dépend, parce qu'on serait dans un cas où on a un nombre de musique fixe et qui ne change jamais. Là, effectivement, ça serait pas rentable parce que finalement, tout le monde finirait par avoir toutes les musiques. D'accord ? Seulement, là, on est dans un monde qui est heureusement, d'ailleurs, créatif. Par exemple, allez voir sur Jamendo le nombre de nouvelles musiques qui sont postées chaque jour. Petite pub pour Jamendo au passage. Et bien, tu verras que en fait, et ben, le nombre de musiques il est loin d'être fixe et que son renouvellement, son ajout,
oui, mais ce sera moins rentable. Sera moins rentable parce que actuellement, ce qu'ils font, c'est que justement, ils te vendent, par exemple, pour les films, ils te vendent la place de cinéma, ensuite, ils te vendent le DVD, ensuite, des fois, ils font une réédition collector, t'as les gros fans qui l'achètent, etc. Alors qu'avec cette histoire de licence, on aurait la licence au moment, je sais pas, on paierait peut-être plus cher la place de cinéma, mais après, on aurait le droit d'avoir toutes les versions et ce serait moins rentable pour eux parce qu'il y aurait moins de chiffres derrière.
Oui, mais auquel cas,
si jamais tu t'aperçois que ton film c'est une grosse bouse, t'auras payé ta licence plein pot en allant au ciné et tu auras jamais envie de revoir le DVD, quoi.
Ouais, donc peut-être que ça s'appliquerait pas au.
Bah oui, mais dans ce cas-là, ça serait super rentable pour eux parce que t'as payé le même prix de toute façon. Donc finalement, oui, l'un dans l'autre, il ferait que des bouses.
Ça s'appliquerait peut-être pas au cinéma, mais on peut imaginer un système comme ça de licence où à l'achat du DVD, tu as une licence qui te permet de le retélécharger sur internet. Et il me semble qu'il y a déjà des films comme ça, que la Warner Bros fait ça avec iTunes sur aux États-Unis, que sur certains films tu les achètes, tu les mets dans ton ordinateur et iTunes télécharge la version fichier. Je ne sais pas quel film le fait, mais je sais que ça se fait sur certains films.
D'accord, mais le problème, tu vois, par exemple, qu'on peut avoir sur iTunes, c'est celui aussi que tu achètes un clip, mais si tu veux juste écouter la musique, t'es obligé de laisser l'écran allumé dans ta poche, quoi. Ouais, c'est quand même très con, parce qu'avec le clip, il pourrait quand
ou
même
alors de
filer,
bidouiller surtout les fichiers, quoi.
Oui, maintenant qu'il n'y a plus de DRM, quoique je crois que sur les vidéos, il y a encore des DRM, par exemple, sur iTunes. Alors pourquoi on parle de iTunes,
ça,
principalement
pas...
parce que c'est la plus simple des offres de téléchargement légales.
C'est pour l'instant une des seules à être vraiment rentable.
Aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que de ce côté-là... Mais donc voilà, donc c'était pas. C'est disons que moi le problème que je trouve quand même, c'est que quelque part on veut qu'on ait du respect pour. Je veux pas faire mon moralisateur, mais c'est juste un avis personnel et ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression qu'on veut qu'on ait du respect pour l'œuvre des artistes, mais ces mises à jour entre guillemets qu'on doit payer donnent l'impression que c'est une denrée périssable comme une autre. Et du coup, alors que normalement une œuvre devrait être éternelle, alors là, je pars dans des envolées lyriques à la limite si vous voulez, mais donc une œuvre pour moi ça devrait être quelque chose de fixe, d'éternel, et là on rend une œuvre jetable en fait. On est dans le monde du jetable, et je trouve ça assez dommage. Parce que du coup, sous couvert de rentabilité, on fait perdre peut-être à beaucoup de sens. À la création artistique, donc qu'elle soit vidéo, qu'elle soit en musique, qu'elle soit même en tableau, hein, qui sait, vous savez, il y a peut-être des gens qui ont imprimé des tableaux de maîtres, c'est considéré comme de la contrefaçon aussi. Hein. si on calcule.
Il y a de la littérature aussi, on a beaucoup d'e-books qu'on trouve sur internet et que donc les gens ne payent pas le livre, alors que écrire un livre ça prend énormément de temps.
Oui, ou même les livres audio qui sont énormément piratés aussi.
Oui. Mais là justement les livres audio, c'est quelle industrie qui doit se plaindre, parce que j'ai un peu du mal à savoir.
C'est
l'industrie du livre qui, comme d'habitude, se met en grève, et l'industrie de la musique qui fait lobbying comme d'habitude.
D'accord, ok, c'était donc ça. Messieurs, nous allons marquer une petite pause. On se retrouve juste après.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Nouvelle technologie, je suis victime du confort. Partisan du moindre effort, toujours à la recherche. Nouvelle technologie, toujours je suis à la recherche. À la recherche, je suis à la recherche. À la recherche, nouvelle technologie.
Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est le débat d'Octet et j'ai avec moi Angelus et Pof pour traiter le sujet bien spécial d'Adopi. Nous avions beaucoup divergé vers le vers donc les différentes façons d'avoir des médias sur son ordinateur, mais j'aimerais bien qu'on recentre un peu le débat sur les sur donc Adopi elle-même ou lui-même d'ailleurs, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais vu comment ça va nous pourrir la vie, donc, je dirais une femme. Donc en quoi pour vous, on va commencer par Angelus, tiens, en quoi pour toi ça va te changer la vie de tous les jours? Bon, hors pod radio, hein, où il va falloir, ou de toute façon, d'ailleurs, ça va peut-être pas nous changer grand-chose, si je calcule. En tant que, dans ton utilisation lambda, on va dire, en quoi ça va te changer la vie?
Et franchement, en rien, parce que déjà, comme j'ai dit, c'est pas sûr que leur spyware soit compatible Mac. Même si il l'est, tant que j'aurai pas un flic avec une arme braquée sur moi pour l'installer, je ne l'installerai pas. Parce que voilà, c'est pas.
Déjà, faudrait qu'elle soit compatible Mac, hein, parce que déjà, ça, c'est pas sûr.
Je vois bien le flic, installe-le, mais je vous dis que j'ai un Mac, monsieur, je peux pas. Allez, installe.
Non, mais même si au cas c'est possible, c'est le côté j'ai pas envie d'être fliqué parce que voilà, c'est contre mon principe de liberté. Donc je ne le ferai pas. Et comme j'avoue que je ne télécharge pas tant que ça, je pense que ça me changera absolument rien. Voilà, dans le côté, c'est faites comme vous voulez, mais ça sera sans moi, quoi.
Voilà, c'est un peu l'idée. Pof,
moi ça va me changer le fait que je vais devoir dire à tout le monde dans ma famille, mais arrêtez de télécharger. Non, je vais devoir dire à tout le monde, mais arrêtez de télécharger, putain, vous allez vous faire couper la connexion. Je vais devoir le dire à tout le monde parce que moi, franchement, télécharger, non, je le fais pas souvent.
Le seul problème, c'est que maintenant, quand tu téléchargeras du Linux, tu seras ce qu'ils appellent un faux positif, c'est-à-dire qu'ils vont faire il a téléchargé.
Bah écoute, je vais me débrouiller avec les ça va me prendre une heure et demie de télécharger un Linux au lieu d'une demi-heure, mais tant pis, je vais juste voilà, ça va juste me prendre plus longtemps pour télécharger certains fichiers Lego qui étaient sur des réseaux peer-to-peer. Sinon pour le reste, étant donné que je suis pas un téléchargeur ce qu'ils appellent des téléchargeurs pirates et tout, moi je me tourne plus vers les trucs les sites d'écoute en ligne type Deezer, le logiciel Spotify, etc. Donc j'ai pas vraiment besoin de télécharger. Si j'aime vraiment quelque chose que je veux l'avoir tout le temps, je l'achète quand j'ai de l'argent. Donc non, moi ça va rien me changer du tout.
Mais sinon, c'est vrai que là, du coup, et là, ça va être mon avis, ce qui va me changer, c'est par exemple le fait qu'on ne puisse pas utiliser ces plateformes de téléchargement pour, une action grise, c'est-à-dire ni vraiment mauvaise, ni vraiment bonne, qui respecte que la moitié des copyrights, c'est-à-dire en gros de télécharger des choses qui sont offertes gratuitement, donc ça ne lèse financièrement personne, mais d'un point de vue du copyright, des fois c'est un peu tangent de télécharger, prenons par exemple le logiciel du SDK, donc du Software Development Kit, kit de développement de logiciels pour iPhone, en utilisant le peer-to-peer, simplement parce que c'est plus rapide que les serveurs d'Apple, parce qu'ils viennent de le sortir et que donc forcément à ce moment-là le peer-to-peer
est plus
rapide.
Ouais, mais quelque part c'est pas vraiment légal, parce que pour y accéder tu dois t'inscrire, etc., et tu dois signer
J'ai pas dit que c'était légal. J'ai dit que c'était gris. C'est-à-dire que c'est un peu entre les deux, c'est un peu tangent, mais ça ne lèse personne financièrement. C'est ça l'idée, quoi. Parce que de toute façon, le SDK, tu peux strictement rien en faire si tu t'es pas inscrit. Donc voilà, quelque part, il y a une certaine.
Prends pas compte, c'est de l'espionnage industriel. Hein,
Ouais, mais sauf que c'est pas l'espionnage, parce que pour en servir, t'es obligé de leur dire je me sers de votre truc. Donc.
Ouais, mais de toute façon, c'est pour ce genre de téléchargement que je trouve que c'est dommage. Alors c'est vrai que là, si j'avais un avocat devant moi, il me dirait oui, mais de toute façon, gris ou pas gris, c'est illégal, donc point. Mais voilà, ça c'est le petit côté dommage. Sinon,
il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas précisé, c'est que le peer-to-peer est utilisé par certaines choses tout à fait légales. Mais vraiment, par exemple, World of Warcraft qui télécharge ses mises à jour en peer-to-peer. Donc qu'est-ce qui va se passer si jamais une personne joue à World of Warcraft et qui télécharge une mise à jour, il va se faire taxer de pirate parce qu'il a utilisé un réseau peer-to-peer?
Non, je pense qu'ils vont couper les mises à jour vers la France, donc au bout d'un moment la France va être coupée du monde de World of Warcraft et on va avoir un taux de criminalité qui va monter en flèche. Des gens qui vont se balader déguisés dans la rue
pour revenir sur le côté fight technique et le côté peer-to-peer, c'est que de toute façon, je pense que ce que tout le monde va faire, est-ce qu'il est déjà de plus en plus utilisé et à l'image, je voudrais pas dire une bêtise là, mais je crois c'est un peu ce que veut mettre aussi en place Pirate Bay, même si eux ils veulent aussi passer par du VPN, c'est-à-dire que tes torrents et ton réseau peer-to-peer, tu peux le crypter.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, ils vont pousser les gens
qui essayer d'aller chercher de ce qu'il y a dedans.
C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, ils vont pousser les gens. Voilà, non, mais ils vont pousser les gens qui pirataient, on va dire, un peu par inconscience. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscience de la portée des actes, et puis c'était des pirates du dimanche, j'ai envie de dire. Ils vont donc, du coup, pousser ces personnes à plonger encore plus profond dans l'illégalité. Et donc, quelque part, s'ils se mettent à payer un service illégal, d'accord, outre le fait que c'est encore plus illégal, le truc, c'est que donc, du coup, ils vont vouloir le rentabiliser d'autant plus. Donc, ça risque de pousser certaines personnes qui téléchargeaient, on va dire, allez, un film par mois, peut-être. Ça va donc évidemment les pousser à télécharger encore plus. Alors, est-ce que ça va compenser le nombre de personnes que ça fera arrêter de télécharger? Je sais pas. Mais...
Le problème, et c'est ce que tout le monde dit, c'est qu'il n'y a pas de véritable offre légale en France par rapport à d'autres pays. Si on prend, par exemple, ce que je disais par rapport à la licence tout à l'heure, comme quoi on pouvait avoir une version digitale, en quelque sorte, du film, une copie fichier du film, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis et qui s'appelle l'iTunes Digital Copy. Donc en fait, c'est ce que je disais, on met juste le DVD et on rentre un code qu'il y a sur la boîte du DVD et on a une version pour les ordinateurs, ce qui permet de pas télécharger un film parce que oui, moi ça m'est arrivé de télécharger un film que j'ai en DVD tout simplement parce que j'avais un ordinateur trop long à l'époque pour encoder le DVD et la flemme en même temps, parce qu'un encodage ça durait 5 heures à l'époque où c'était le cas, et donc du coup j'ai téléchargé le fichier parce que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Alors que j'avais le DVD entre les mains, mais dès que tu le lâches,
fallait que tu mettes en pause l'enregistrement, voilà, le téléchargement.
Exactement.
Il faut bien le serrer très fort. Et il faut le serrer des deux mains. Donc du coup, t'es obligé de taper à la recherche avec le clavier, avec le nez.
On voit ça par exemple aussi avec la PlayStation 3 et la Xbox, qui ont des contenus dématérialisés, etc. au niveau des jeux, mais qui aussi vendent des films via un téléchargement, donc qu'on paye, etc. Sauf que ces films-là ne sont pas disponibles en France. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de contrat de signé, etc. Et c'est toujours un problème de contrat de signé. Pareil, le site Deezer a pu exister parce qu'ils ont signé des contrats avec les maisons de disques, et ces contrats ont pu être signés que très récemment. Donc en fait, c'est aux maisons de disques, aux sociétés de production de cinéma et tout, de s'ouvrir pour proposer autre chose que ce qu'ils ont actuellement, parce que c'est aussi pour ça que les gens téléchargent. Parce que il y a pas assez d'offres, et ça c'est l'argument principal de tous les détracteurs, et on leur dit ah oui mais machin et tout, en fait vous êtes des pirates. En fait il y a pas vraiment d'autres arguments de l'autre côté que ah mais vous êtes contre parce que vous êtes des pirates.
Mais justement tu viens de mettre le doigt sur un sujet très intéressant. Au niveau des offres de téléchargement légal en France, on a quoi?
On a quoi? On a sur certains services type Canal Satellite, les Freebox, etc. On a des téléchargements. Enfin, c'est pas vraiment des téléchargements.
C'est de la vidéo
en fait,
à
on
la
paye
demande,
un film, mais on a le droit. Voilà, on a le droit. Voilà, c'est de la vidéo à la demande, mais on peut pas le télécharger. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a? Ben pas grand chose en fait. Au niveau des films, en tout cas, on n'a pas grand chose. Au niveau de la musique, c'est un peu amélioré parce que peut-être que le catalogue est plus vaste, même si ça doit être à peu près égal. Mais en tout cas, ça s'est fait plus facilement. Et donc on peut acheter de la musique facilement en France. Mais les films, c'est dur de trouver une plateforme de téléchargement. Et voilà, c'est ce que je disais. C'est par exemple, si vous traversez la frontière, que vous allez en Allemagne ou en Angleterre, vous pouvez acheter des films avec votre PlayStation, votre Xbox, et vous pouvez les garder vu qu'ils sont sur le disque dur. Et ça, c'est impossible à faire en France.
D'accord. Mais sinon, donc au niveau de la musique, c'est bête. Qu'est-ce qu'on a comme offre légale et quelles sont les plus intéressantes ? Donc, parce que je suppose qu'il y en a des gratuites aussi.
Il n'y a pas si longtemps, on a entendu quelque chose qui était financé par la publicité, mais c'est peut-être ce que tu voulais dire, Andrius, non ?
Non, pas dit. Enfin, après, je te dis si c'était ça.
Non, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vu là passer nous en interne dans notre équipe et que quelqu'un qui nous a dit que sur ce site-là, on pouvait télécharger de la musique gratuitement en fait, Amazon. En quelque sorte, alors que tout ça est financé par la publicité en fait, de la même manière que Deezer est.
Attends, Deezer, tu n'es pas censé la télécharger, la musique.
Oui, tu ne la télécharges pas, mais c'est artiste.com. Donc, apparemment, c'est un site internet où tu regardes de la pub et en échange, on te donne un titre à télécharger, en fait.
Ça sera peut-être le sujet d'un débat d'octet plus tard, mais est-ce que ces modèles avec la pub, moi, ça me rappelle la bulle internet, personnellement. Donc, il y a Last.fm qui est en train de se casser la gueule à cause de ça.
Il y a Dailymotion qui n'est toujours pas et de moins en moins rentable.
Voilà.
Et en même temps, face à YouTube,
parce qu'il y a la grosse machine Google derrière.
De toute façon, il faut de moins en moins compter sur la pub parce que la pub rapporte de moins en moins sur Internet. Et de toute façon, maintenant, franchement, un titre, ça coûte 99 centimes. En général, ça peut coûter 79 centimes sur d'autres plateformes, donc c'est pas non plus extrêmement cher. Les albums coûtent moins cher à acheter sur. Les albums coûtent moins cher à acheter sur Internet parce qu'il n'y a pas la boîte, etc. Bon, après, il y a ceux qui préfèrent avoir la boîte, les paroles, etc., qui sont un petit peu lésés dans l'histoire, mais quelque part, il faut faire un choix, payer moins cher ou alors avoir une boîte.
Et sachant que sur ce nouveau principe, il y a quand même le site qui est, enfin c'est pas le site, c'est plus un logiciel d'ailleurs qu'un site, qui est actuellement en bêta mais qu'on a tous plus ou moins essayé et qui est en train de tout poutrer sur son passage, qui est Spotify.
C'est un peu ça aussi parce que en fait.
Non, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas une application parce que.
Oui, mais Spotify,
le truc c'est. Et pof, arrête de lui couper la parole 2 minutes.
Vas-y.
Ben c'est qu'en fait c'est plus une application donc qui se met sur votre ordinateur PC ou Mac là pour une fois, pas comme Adobe, ils ont tout prévu. Et je crois qu'il y a même une version Linux qui est en préparation d'après la dame qui s'en occupe et qui en fait c'est le principe c'est tous les avantages de Deezer avec avec aussi les avantages d'iTunes, c'est-à-dire que vous avez un catalogue énorme, et quand je dis énorme, c'est qu'ils ont à peu près signé avec tout le monde, c'est-à-dire avec toutes les majors, avec aussi pas mal d'indépendants. Je crois qu'à peu près les seuls qu'ils ont pas, mais c'est un peu comme d'habitude, c'est les Beatles qui eux, ils veulent se mettre avec personne. Yoko Ono, qui nous écoute. Mais à part ça, donc du coup, ça fait comme si vous cherchiez sur votre iTunes ou une chose comme ça, donc vous cherchez votre titre et ça vous avez déjà le titre qui apparaît quasiment directement, donc il n'y a pas de temps de latence dû au problème de connexion comme peut y avoir sur Deezer. Alors étant donné que c'est quand même du streaming, je ne sais pas comment ils font, mais le fait est là. Et en plus, ça a une qualité sonore plus que respectable parce que c'est quand même encodé en 172, je crois, ou 162, un truc comme ça.
192.
Non, c'est pas tout. Non, c'est en dessous de 192. Mais c'est un truc genre 172, 162.
D'accord.
Ouais, ou 168, ouais, je pense, ça doit être un truc comme ça.
D'accord.
Donc voilà, donc ça reste, et sachant que c'est gratuit, en fait, c'est vous avez un jukebox avec à terme, et c'est leur but, toute la musique possible et imaginable. Et j'avoue que pour avoir essayé de le. Un peu, dans ces cas-là, c'est un peu comme avec Shazam, on essaie de piéger. J'ai cherché des trucs que je trouvais nulle part ailleurs, et ils l'avaient, alors qu'ils ont implémenté pour l'instant que 70% de leur catalogue, je crois.
Oui, mais contrairement à ce que beaucoup de pirates pensent, il n'y a rien de gratuit sur Internet. C'est quoi leur modèle économique ?
C'est de la publicité.
Voilà.
Encore ?
L'avantage qu'ils ont ils ont été plus intelligents que les autres, c'est qu'ils ont commencé, eux, par faire des accords avec les majors. Et là où on se dit qu'il y a, il y a peut-être un piège, mais pas trop, c'est que c'est quand même un modèle qui a été, bon, qui est nouveau en France, mais qui a déjà été éprouvé dans les pays scandinaves et qui, en Europe, je dirais occidentale, est, est déjà lancé en Angleterre et en Allemagne, je crois. Avec encore une, un succès énorme parce que il y a, c'est lancé depuis, depuis quelques mois, il y a plus de 2 millions de types qui sont jetés dessus, quoi.
Mais pour répondre à ta question, Phil, la publicité, elle est entre les titres, un peu à la manière d'une radio, quoi.
Mais je les ai, j'ai jamais partie... eu de publicité entre les titres.
Parce que pour, pour l'instant, il n'y en a pas.
C'est-à-dire qu'ils ont la... c'est pour ça, s'explique.
Et bien sûr, il y aura des comptes payants avec d'autres avantages aussi.
Ah, mais tu vas voir que ça va être beaucoup moins sympa quand il va y avoir de la musique. Bah, moi, sérieusement, si moi, compte payant illimité, je sais pas, tu peux télécharger, moi, ça me va. Ça, pour, ça pour franchement, c'est toujours la chose que j'attends.
Enfin, la, la responsable de ça en France, qui est d'ailleurs une Scandinave qui nous ont importé, c'est que pour, je ne serais pas dire déjà les différences entre les premiums et les normales, parce que bah, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est dire si ça ne m'a pas marqué, quoi. Ouais. Tu gagnes 2-3 trucs et puis voilà, t'es content, t'es un premium user, mais si tu veux écouter de la musique de base et juste te faire plaisir, eh ben, tu prends un compte gratuit, ça suffit largement, quoi.
Oui, mais là, ça règle, c'est bien, ça a réglé le petit problème qu'on avait de, d'écouter de la musique au bureau ou à la maison. Mais ça règle toujours pas le problème d'écouter de la musique en mobilité, ça. Parce qu'à la base...
Parce qu'il peut y avoir des versions mobiles qui vont se faire dans le futur.
Oui, parce qu'ils ont fait déjà une version mobile de Deezer. Non, mais sachant que là où, le, oui, où ça peut être complémentaire avec, avec un autre truc, c'est que le jour où tu peux, où tu veux acheter ça, il y a un peu un peu à la manière de ce que fait Shazam justement, où tu fais tiens, il y a une musique que j'aime bien, dis-moi ce que c'est parce que j'arrive pas à trouver le titre. Et ben Shazam, une fois qu'il te l'a trouvé,
Shazam,
pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui soit sur, sur iPhone, mais sur BlackBerry, sur à peu près maintenant toutes les plateformes de smartphones. Voilà, ça vous trouve le titre d'une chanson quand vous lui faites écouter, et ben ça vous donne des liens vers iTunes, Amazon et autres trucs pour pouvoir l'acheter. Donc je pense que c'est un peu le modèle à venir et qui sera sûrement complémentaire, voilà. Comme maintenant, tu écoutes un truc à la radio ça te, ou à la télé, ça te plaît, tu vas l'acheter chez, à la Fnac ou chez ton, à ton supermarché du coin. Ben là, tu l'écoutes sur Spotify, ça te plaît, et tu vas l'acheter sur ton iTunes, Amazon du coin, sauf que t'as même plus à te déplacer.
Ouais.
Ok. Pof, tu voulais rajouter quelque chose à cette analyse très complète d'Angelus ?
Je voulais rajouter que ça a sûrement détrôné Deezer, qui pour l'instant est un petit peu, je sais pas, le leader de la musique en streaming gratuite sur Internet, parce qu'en fait, Deezer est en train de se polluer par des offres payantes. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait écouter de la musique, tout simplement. Et ensuite, ils ont décidé qu'il y aurait des comptes payants, donc soit. Mais maintenant, en fait, il faut d'abord s'inscrire pour un compte gratuit pour pouvoir écouter la musique. Et je crois que sur iPhone, pour écouter directement l'artiste que tu as envie, il faut avoir le compte payant.
Oui, oui, parce que sinon, tu n'as que, les web, ce qu'ils appellent les radios à thème, et tu as ta première chanson qui vient de l'artiste, et tout le reste, c'est des trucs apparentés. Et sachant que sur Deezer, ils nous ont, amis blogueurs et amis internautes, ils nous ont aussi viré, il y a une manip qui permet encore de le faire, mais ils nous ont officiellement viré tout ce qui était les lecteurs exportables.
Ouais, donc
c'est-à-dire qu'avant, tu pouvais mettre de la musique sur ton blog, genre j'écoute ça, machin et tout, je le fais parce que moi, sur mon blog, j'ai une musique où de temps en temps, je balance aux gens ce que j'écoute en ce moment. Et tu peux plus le faire. Enfin, je continue à le faire parce que je connais la manip. Mais officiellement, tu peux plus le faire. C'est-à-dire en fait, que c'est comme si un jour, YouTube ou Dailymotion te disait, bah, si tu veux exporter la vidéo, c'est-à-dire que tout ce que tout le monde fait, ce que tout le monde a pris l'habitude de faire depuis des années, et bah, si un jour, tu veux exporter ta vidéo et la mettre sur ton site, et ben, bah, tu es obligé de passer à la caisse.
Ouais,
ah, c'est un peu ça. Ce qui fait gaffe, c'est pas trop fort Dailymotion pour récupérer ce modèle économique. Mais sinon,
oui, sont
passons,
un petit peu,
passons quand même à un sujet que j'aimerais bien traiter.
Il y a plein de gens du coup, qui vont passer.
Ils sont partis. le dernier sujet que j'aimerais bien traiter, c'est les fournisseurs d'accès. Parce qu'au centre de tout ça, j'ai envie de dire un peu entre le marteau et l'enclume. L'enclume qui pourrait être justement la base, les utilisateurs, et le marteau qui se trouve être bah, justement le marteau de la justice, si vous voulez, y a les fournisseurs d'accès. Alors, ces derniers freinent un peu des deux pieds, bon, quelque part on les comprend, parce que quelque part ils ont mis l'accent sur le débit et l'accès à la culture en général depuis très longtemps, depuis même des temps où l'offre légale n'existait pas encore. Rappelez-vous, ces magnifiques formats 4x3 de Orange ou de Wanadoo à l'époque, qui disaient télécharger toute la musique que vous aimez Sauf qu'à l'époque, à part le téléchargement illégal, il n'existait pas de façon de télécharger la musique qu'on aime.
Comme il n'y avait pas de téléchargement légal, il s'en souciait pas. Il disait, si, télécharger, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien de légal à côté. Donc.
Voilà.
Alors que maintenant qu'il y a un truc légal, ils ont la comparaison, ils disent, ah, mais ça, c'est illégal en fait.
Donc, quelque part,
ils
sont
aperçus que sur le côté légal, ils pouvaient ramasser un peu des sous. Donc.
Je peux finir mon intro, les gars, ou
vas-y,
vous voulez partir direct? Non, vous pouvez partir direct, hein, ça me va aussi, mais j'aimerais bien un peu finaliser la question, l'histoire qu'on y réponde dans sa globalité. Donc, ils se plaignent du fait que ça va leur coûter énormément de mettre en place le flicage, ou au moins d'aider au flicage, et surtout à la répression, de couper que le téléphone et pas couper. Justement, couper que l'internet et pas le téléphone. Est-ce que ça serait pas temps un peu de payer pour leur hypocrisie et surtout, si un jour, prenons par exemple, imaginons Angelus qui est chez Orange depuis, imaginons que ça soit. Que lui, il flique et que Free décide de ne pas fliquer. Est-ce que toi, Angelus, par exemple, tu déciderais de partir de chez Orange?
Ben, indépendamment du fait des problèmes que j'ai en ce moment avec Orange, oui, c'est clair. Pour la même raison que j'installerai pas, comme j'ai déjà dit, ce fameux spyware client machin. Gouvernement chinois, il y a eu de Moscou sur mon PC ou sur mon Mac, enfin en l'occurrence sur mon Mac. C'est clair que s'il y en a un qui me fait « je pirate », enfin « je te flique » et l'autre qui fait « je te flique pas » pour le principe cher à la liberté qui est normalement inscrit à plus ou moins dans la Constitution française, je me barre, ouais, c'est clair. Mais indépendamment de ça, pour revenir aussi sur ce que tu disais sur la place des fournisseurs d'accès dans ce débat-là, eux, leur place et enfin leur réponse est plus ou moins simple, c'est-à-dire que d'une part, le jour où ils font ça et ça leur fait une image négative plus, la preuve, c'est que on est les premiers à dire que si notre opérateur fait ça et qu'il y en a qui le fait pas, et on va voir ailleurs. Mais en plus, c'est ils insistent aussi sur le côté technique, c'est que la loi et le gouvernement leur diraient, c'est aussi à vous de fliquer les gars. Seulement, ils disent, t'es bien gentil, mais vois le nombre de connexions qu'il y a par jour dans le monde, et encore quand on télécharge, on télécharge pas qu'entre Français, donc je dis, faut qu'on flique à peu près tout ce qui rentre et ce qui sort en France, donc là pour l'instant c'est juste pas possible. Donc si tu veux vraiment qu'on le fasse, faut qu'on multiplie nos infrastructures par 10, 15, 20, enfin je donnerai pas de chiffres parce que je vais dire n'importe quoi, mais un truc assez énorme. Et ils disent, bon, on veut bien le faire dans l'absolu, mais avec quel argent? Parce que c'est clair qu'on le fera pas avec le nôtre.
Oui, mais là dans ce cas-là,
le gouvernement, il dit, non, moi je veux pas lâcher d'argent non plus.
Oui, non, mais attends, mais la réponse entre guillemets intelligente du gouvernement, c'est de dire, ouais, non, mais attendez, les mecs, vous êtes engraissés sur le dos de la culture et en faisant on va dire votre beurre sur le téléchargement illégal, indirectement évidemment. Maintenant, il est temps de passer au tiroir caisse. Parce que franchement, honnêtement. Si on compte tout ce qui est fait en téléchargement hors illégal, d'accord, qui a besoin d'une connexion 20 mégas? Moi, sérieusement, hein, j'imagine bien des gens après Anopi arriver et demander du 512 en disant je ne télécharge plus. Allez-y, quoi. Oui.
Ce qu'ils vont te répondre aussi et ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils disent d'accord, à la rigueur, on passe tout notre pognon dans fliquer les gens et mettre en place les infrastructures pour. Par contre, du coup, on n'aura plus un centime à mettre sur mettre en place des plateformes de téléchargement légal et mettre en place des outils légaux, quoi.
Tu as besoin du 20 mégas par exemple pour télécharger des gros fichiers comme tu dis tout à l'heure, le SDK de Apple, t'es obligé d'avoir du 20 mégas parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Il y a des tonnes de fichiers comme ça,
pour écouter des radios en streaming par exemple, je sais pas.
Oui, aussi, mais même
512, même, ça suffit.
Maintenant qu'il y a des offres de télévision, 512 ça suffit pas. Et la télévision est complètement liée à Internet maintenant, donc tu ne peux pas te permettre d'avoir 512.
Et ce qui permet aussi
avoir la télévision.
Ce qui permet justement aussi aux opérateurs de vivre, c'est qu'ils vivent maintenant sur le triple play, quoi.
Oui, et moi, 512, franchement, ça me conviendrait pas. Tout simplement parce que j'ai de trop grosses choses à télécharger, et c'est pas des choses illégales, c'est des démos de logiciels, des DVD de Linux, etc., qui font en général plusieurs gigas et qui donc seraient téléchargeables sur 512.
Sans parler de ça, si tu as par exemple, pour en revenir au débat de la semaine dernière, des consoles de jeux, va télécharger des démos ou faire du jeu en ligne avec 512.
Ouais, c'est pas bête. Enfin bref, messieurs, je vous remercie. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Je vous engage donc à aller sur le forum pour traiter un peu plus en détail les sujets qui ont été traités aujourd'hui, les approfondir, donner votre avis. Vous pouvez aussi évidemment nous contacter sur le répondeur et vous pouvez aussi nous contacter par mail. Aussi, je rappelle qu'on recrute. Allez voir sur la page principale du site.